19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, c'est la dernière de la saison, vous le savez, encore quelques jours à vivre avec nous justement. Nous sommes ensemble jusqu'à vendredi. Et oui, après c'est la période estivale. Oui, parce que figurez-vous que beaucoup d'entre vous nous suivent en direct justement pendant leurs vacances. Beurre FM et les informés. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission. Vous le savez, les débatteurs influenceurs seront avec nous pour débattre justement des trois sujets qui ont retenu notre attention. Le président des Émirats Arabes Unis, MBZ, était reçu par, en grande pompe d'ailleurs, par Emmanuel Macron. Sa première visite d'État. On parlera aussi notamment, vous savez quoi, du pouvoir d'achat et puis ces débats houleux qui se déroule au Parlement. Et puis on finira avec la guerre en Ukraine. Justement, que cherche Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Et puis à 19h, dans une poignée de minutes, vous savez, nous allons vivre une interview en direction de la Tunisie avec, figurez-vous, et bien justement, cette société civile qui dénonce le projet d'une loi de la Constitution. Bref, on va en parler avec notre invité qui est avec nous. Et puis, vous. Au 01 53 48 3000. Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment. Vous nous suivez dans les informés partout en France. Un seul numéro, c'est pour vous. 01 53 48 3000. Eh bien, vous nous appelez quand vous voulez pour nous dire comment se déroulent vos vacances, comment s'organisent vos vacances, mais surtout comment vous les vivez. Allez, c'est parti, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
L'invité, c'est parti du jour.
Les informés, l'interview.
Interview, c'est avec Rayed Chaibi, le président de l'Association de la coopération franco-tunisienne. Rayed Chaibi, bonsoir monsieur le président.
Bonsoir Adil Farkan.
Comment ça va?
Très bien et vous?
Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment?
Concentré, et puis je dis oui, très concentré. Ouais.
Très concentré. Comment se porte l'association de la coopération franco-tunisienne?
Très bien.
Très bien. Alors, vous êtes notre invité justement pour parler, vous savez quoi, de cette fameuse constitution, ce référendum, pour le projet de la nouvelle constitution tunisienne. Et ça parle beaucoup d'ailleurs.
Exactement.
Pourquoi ça parle autant? Pourquoi ce référendum fait beaucoup parler de lui? Pour quelle raison d'ailleurs, même au point où les ONG sont montés au créneau, monsieur le président?
Parce que on est, je dirais, au bout d'un processus qui a commencé le 25 juillet 2021, donc l'activation de l'article 80 par le président de la République, à la suite, on va dire, d'une crise sanitaire qui a entraîné avec elle une crise institutionnelle.
Oui.
Et donc, à la suite de cette reprise en main par le président de la République, il était nécessaire, on va dire, de remettre un peu d'ordre dans la boutique. Et donc, à la suite d'une feuille de route qui a été annoncée d'ailleurs très clairement par le président de la République le 17 décembre 2021.
Monsieur Kaïd Saïd.
Le président Kaïs Saïed qui avait annoncé notamment la tenue d'une consultation nationale, la rédaction d'une constitution et donc un référendum qui aura lieu le 25 juillet prochain et pour les Tunisiens résidents de l'étranger les 23, 24 et 25 juillet. Pourquoi ça fait parler? Parce que ça vient après, comme je le disais, le 25 juillet, salué par les uns, dénoncé par les autres, et donc on est surtout en plus à la suite, je dirais, d'une révolution de jasmin. Donc forcément, ça, lorsque la Tunisie est amenée à connaître comme ça des bouleversements institutionnels, il est tout à fait normal que ça fasse parler. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout de suite.
Mais justement, ça fait parler. Pourquoi je vous posais la question? ONG des défenses des droits humains, avocats, partis politiques, tous, si vous voulez, sont un peu sur leur garde. Est-ce que vous, président de la coopération franco-tunisienne, vous êtes aussi sur vos gardes? Est-ce que vous aussi, évidemment, ou alors est-ce que, je vous pose la question moi aussi différemment, est-ce que vous êtes monté au créneau auprès des acteurs, de ces acteurs justement, concernant ce fameux référendum? Et qu'est-ce que vous leur avez dit éventuellement si c'est le cas?
Alors, deux observations. La première, par rapport aux craintes et par rapport à tout ce que j'ai pu entendre. Vous savez, moi, je me tiens toujours un peu à l'écart de la vie politique tunisienne, mais il n'en demeure pas moins que je suis citoyen tunisien. Et donc, je ne peux pas détourner le regard sur ce qui se passe dans mon pays. Et donc, depuis plusieurs mois, j'entends beaucoup de choses, beaucoup de vérités prononcées, mais qui en réalité n'en sont pas. Je prends un exemple très concret. Beaucoup avaient pointé du doigt ou continuent à pointer du doigt la Tunisie en disant « Ah, c'est une dictature, coup de force du président, on a affaire à un président qui concentre tous les pouvoirs. » Mais je voudrais quand même rappeler que pour une dictature, quand on parle de dictature,
il faut
savoir...
Il veut un peu renforcer savoir, ses pouvoirs, c'est le sentiment. C'est le sentiment de la société civile, je vous le rappelle, monsieur le président.
J'y viens. Mais quand on parle de dictature, il faut savoir aussi de quoi on parle. Parce qu'une dictature, généralement, on concentre effectivement tous les pouvoirs, on met généralement les opposants en prison... et parfois pour des délits, enfin pour des prétextes totalement fallacieux. Et puis quand on pense le contraire, généralement ça tombe sous le coup du délit d'opinion. Or là, pour une dictature, organiser une consultation nationale et populaire, organiser mettre en place un projet de constitution, organiser un référendum. Je ne connais pas d'exercice plus noble que le référendum, c'est-à-dire laisser le peuple juge et souverain se prononcer sur un projet de constitution. Et ensuite organiser à la mi-décembre 2022 des élections législatives anticipées.
Alors vous répondez pour quoi, une dictature, monsieur le président, pardonnez-moi, qui ont le sentiment de se dire qu'il veut renforcer.
J'y viens.
Permettez-moi juste de rappeler, en tant que président.
Au moment où on se parle, il y a pas mal de pays qui connaissent, on va dire, des transitions. Je connais très peu de pays qui, en 12 mois, organisent une consultation populaire, un projet de constitution qui sera soumis à référendum, et ensuite une élection législative.
Pourquoi ils ont ce sentiment ?
En 12 mois, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal.
Pourquoi les Tunisiens, la société civile, ont le sentiment qu'ils souhaitent renforcer ses pouvoirs?
Ils ne souhaitent pas renforcer les pouvoirs. Il y a une volonté populaire qui s'est exprimée lors de la consultation et qui dit tout simplement, on souhaite voir le retour d'un régime présidentiel. Je m'explique pour celles et ceux qui nous écoutent. En 2014, le Parlement tunisien a adopté une constitution qui consacrait le régime parlementaire. Oui. On va même dire un régime hybride, c'est-à-dire le pouvoir était concentré entre le gouvernement et le Parlement. Qu'est-ce que ça a donné ? Cette constitution, elle a duré 7 ans, de 2014 jusqu'à 2021. Il y a 5 gouvernements qui se sont succédés en cette année. L'instabilité vient d'où ? Depuis le 25 juillet, elle date déjà depuis bien avant, depuis 2011, et en 2014, ça s'est aggravé. 5 gouvernements en 7 ans. Les dispositions qui étaient prévues dans cette constitution ne pouvaient que amener à des blocages. Exemple très concret, il devait s'écouler, ou il s'écoule, entre le moment où le chef du gouvernement est nommé par le parti représenté au Parlement, le parti majoritaire, donc on savait pour qui cette constitution elle avait été taillée. Mmh. Entre le moment où le chef du gouvernement est nommé et le moment où il peut commencer à bosser avec son équipe, il s'écoule en moyenne entre 2 et 4 mois. Est-ce que la Tunisie, qui traverse une crise économique et sociale, peut attendre entre 2 et 4 mois avant qu'un gouvernement puisse commencer à bosser ? Comment voulez-vous que la Tunisie puisse s'en sortir ? Comment voulez-vous que, ne serait-ce que les interlocuteurs officiels de l'État, je pense aux syndicats, je pense aux associations,
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui se posent la question et qui se disent quand même que le président Kais Saied est-il vraiment oui ou non un dictateur?
Je réponds à votre question.
Je réponds à
celles et ceux qui se posent des questions.
Ici à la radio, on a des connexions avec des journalistes locaux.
Bien sûr.
Ils nous ont dit effectivement, les Tunisiens le vivent.
Ils disent même d'ailleurs,
il y a un net recul, vous savez, de quoi ? Recul des libertés civiles.
Alors on répond quoi ? Mais attendez, il faut déjà retracer le contexte, encore une fois. Et après, je vais y venir point par point à ce que vous évoquez à travers vous les questions que se posent nos compatriotes tunisiens. Il faut savoir que cette constitution n'a ramené avec elle que l'instabilité. Je viens de vous le dire, 5 gouvernements en 7 ans. Quand vous êtes un acteur de la société civile, quand vous représentez les entreprises, quand vous représentez les ouvriers, ou quand vous êtes de grandes institutions internationales, comment voulez-vous négocier avec un gouvernement qui change, passez-moi l'expression, tous les 36 du mois ? Ça n'est pas possible. Et le clou du spectacle, permettez-moi de m'exprimer ainsi, ça a été la crise sanitaire. Pourquoi on en est arrivé là ? Parce qu'on avait une situation, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai apporté mon aide à la Tunisie. On avait une situation On avait une situation en Tunisie où on avait une crise sanitaire absolument calamiteuse. sur le mois de juillet 2021, par exemple, juste avant que le président décide de reprendre les choses en main, on avait 2930 morts du Covid rien que sur le mois de juillet 2021, faisant de la Tunisie le pays au plus fort taux de mortalité en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste les bras croisés ? On ne dit rien ? Et pendant ce temps-là, on avait au Parlement des parlementaires qui s'envoyaient des chaises en pleine figure, qui s'insultaient, qui se permettaient d'invectiver, comment dirais-je, d'autres parlementaires, certains insultant les binationaux, comme moi, comme celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, de bâtards. On continue encore comme ça ?
Qu'est-ce qui vous exaspère ?
Comme ça. Ce qui m'exaspère, c'est qu'on a perdu 10 ans en réalité. On a perdu 10 ans.
Depuis le printemps arabe ?
Exactement. On a perdu 10 ans. Parce que qu'on aille me démontrer que la stabilité est arrivée après le 14 janvier 2021, je demande à n'importe quelle personne de m'en fournir la preuve. Parce que quand vous avez 12 gouvernements en 10 ans, quand vous avez le chômage qui passe à moins de 10% en 2011, à aujourd'hui, qui a atteint les 20%, donc 40% juste pour les jeunes, qu'on m'explique que, comment dirais-je, la période post-révolution a été une grande réussite. Et celles et
alors,
ceux...
Alors, est-ce qu'on peut parler d'un recul majeur des libertés civiles ?
Absolument pas. Absolument pas, parce que cette constitution...
En tout cas, certains activistes...
Cette constitution...
Vous savez ce qu'ils disent ? Le président...
Cette constitution, cher Adil...
Saïd est en train de poser les piliers de son pouvoir...
Cher Adil,
avant
cette
de nous
constitution
la
qui est proposée aux Tunisiennes et aux Tunisiens... J'en doute pas. Cette constitution qui est proposée aux Tunisiennes et aux Tunisiens appelle à un retour, je dirais, de la fonction exécutive, puisque c'est comme ça que c'est défini, à une fonction exécutive où le président et le gouvernement déterminent la politique de l'État. On n'est pas dans un régime présidentialiste. On est dans un, comment dirais-je, il est proposé un régime présidentiel, un président qui conduit et détermine la politique de l'État avec un gouvernement. C'est comme ça que ça doit se passer. Pardonnez-moi, le régime hybride parlementaire avec le pouvoir entre les mains du gouvernement et du Parlement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a ramené que des blocages. Et quand vous avez au Parlement des partis qui veulent se débarrasser d'un gouvernement parce que telle ou telle mesure, eh bien, ne convient pas aux intérêts de telle ou telle partie, parce que la réalité, il faut pas se le cacher, c'est que l'Assemblée des représentants du peuple s'était transformée en Assemblée des représentants des partis, et non pas du peuple. Allez expliquer aux Tunisiennes et Tunisiens, et j'attends d'avoir des explications de celles et ceux qui critiquent et qui tirent à boulets rouges.
Alors, je voudrais
le dire sur votre antenne.
Alors,
celles et ceux qui ont un avis, je dirais, négatif sur la Constitution, ou celles et ceux qui, comme moi, voteront oui, on doit respecter leurs opinions, ils doivent les défendre,
ah bah
et c'est très bien ainsi.
Je m'apprête à vous poser
en
la
revanche,
question.
Celles et ceux qui tirent à boulets rouges, je veux bien entendre les critiques.
Rayed Chaïbi.
Mais il est difficilement audible pour moi, excusez-moi, cher Adil Farkan, il est difficilement audible pour moi d'entendre des personnes qui critiquent alors qu'ils ont été aux manettes, qu'ils avaient l'ensemble du pouvoir entre les mains, au Parlement, au gouvernement, associés au gouvernement, et à la finale, on a une dette qui est abyssale, qui représente 98% du PIB, le chômage qui augmente, un Parlement qui, plutôt que de bosser dans l'intérêt du peuple tunisien, n'a absolument pas bossé dans son intérêt, mais plutôt dans leur intérêt égoïste. Je vais vous donner un exemple très concret qui s'est déroulé l'année dernière lors de la crise sanitaire. Il a fallu deux mois au Parlement pour adopter un projet de loi permettant à la Tunisie d'intégrer le dispositif COVAX pour avoir des vaccins. La Tunisie a commencé sa campagne de vaccination à la fin du mois de mars 2021, que ses voisins du Maghreb les ont commencé à partir du mois de janvier.
C'est vrai.
Je dirais, un président qui conduit la politique de l'État, qui impulse la politique de l'État avec un gouvernement, parce que un pouvoir qui est concentré entre les mains du président, généralement, il n'y a pas de gouvernement. Mais quand vous avez un président qui conduit la politique de l'État avec un gouvernement, comme ça a été le cas après le 25 juillet, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 1 million de vaccinés en 2 journées, là où le gouvernement précédent en avait vacciné 2 millions en 5 mois. Et ça, c'est grâce notamment au volontarisme qu'a fait preuve le chef de l'État, à la mobilisation, de la présidence de la République, qui a mobilisé la santé militaire, qui a mobilisé nos personnels soignants, mais aussi la diaspora que je salue, qui s'est mobilisée pour aider la Tunisie. Et j'ai personnellement aussi mobilisé les collectivités locales françaises.
Il faut qu'on avance.
Pour aider la Tunisie.
Il faut qu'on avance, parce que, évidemment, on arrive bientôt au terme de cette interview consacrée à la Tunisie, ce référendum constitutionnel. À quelques jours, d'accord ? C'est le 25, vous disiez tout à l'heure, le 25 juillet. On est à quelques jours. Alors, la question est très claire. Est-ce que c'est un événement qu'on va vivre ou finalement, comme beaucoup le pensent, un non-événement ?
Non, c'est un événement qu'on va vivre parce que j'ai envie de dire, je l'espère en tout cas, à partir du 25 juillet, j'ose espérer qu'on va écrire une nouvelle page de la Tunisie.
Vous savez que beaucoup pensent que tout est joué.
Vous savez, les commentateurs sont là pour commenter. Il y en a qui si les gens parlent à la place du peuple en disant les dés sont pipés, ça veut dire qu'on prend les Tunisiens pour des veaux. Pardonnez-moi. Le peuple est souverain, il décidera s'ils acceptent la constitution ou pas. À celles et ceux, je rebondis sur votre question de tout à l'heure, qui s'inquiètent pour les droits et libertés. Quand vous analysez la constitution de 2022, le chapitre des droits et des libertés reprend exactement au mot près le chapitre des droits et des libertés de la constitution de 2014. Alors, ce que je veux vous dire, cher Adil, et à celles et ceux qui nous écoutent, je respecte tous les points de vue. J'appelle celles et ceux qui veulent voter oui ou qui veulent voter non.
D'ailleurs, il y a un site, c'est le toensa.izi.tn
pour vérifier notamment.
Toensa.izi.tn.
Voilà, pour vérifier où est-ce que vous.
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Un passeport? Il faut quoi?
Le passeport ou bien la carte nationale d'identité tunisienne pour savoir dans quel
bureau. Et se rendre dans les consulats? Les différents consulats?
Eh bien, sur ce site-là, vous aurez le bureau où vous pouvez voter. Mais ce que je voudrais dire.
En France, depuis la France.
Bien sûr, exactement. Ce que je voudrais dire, c'est que, à titre personnel, je ne peux. La véritable question que je me pose, moi, à titre personnel, peut-être que celles et ceux qui nous écoutent se poseront la même chose, c'est qu'au-delà de savoir si voter oui ou il faut voter non, la question c'est est-ce qu'on revient comme avant, c'est-à-dire un parlement bloqué, c'est-à-dire une désorganisation gouvernementale, ou est-ce qu'on a envie de construire une nouvelle Tunisie? Moi, en votant oui, cher Adil, à partir du 23, je repenserai à ce directeur du dispensaire de la région de Bizerte qui est en train de pleurer parce qu'il y avait plus d'oxygène. En votant oui, je penserai à ces 2930 morts du Covid. En votant oui, je repenserai à tous ces parlementaires de la mouvance islamiste radicale, de la coalition de l'indignité, parce que ça s'appelle pas autrement, qui se permettaient d'insulter les femmes isolées de prostituées, qui parlait de la liberté de la femme comme étant du libertinage, qui se permettait de justifier l'assassinat de Samuel Paty. En votant oui, je repenserai à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui dans ce marasme économique et social. En votant oui, je penserai à ces 40%
vous
de jeunes qui sont dans une situation calamiteuse du fait d'une gouvernance catastrophique depuis 10 ans. Je voterai oui parce que j'aime la Tunisie. Je voterai oui parce qu'il faut impulser une nouvelle dynamique pour la Tunisie.
Est-ce que vous adressez à tous ces franco-tunisiens qui nous écoutent et ils sont nombreux?
Bien sûr. Oui. Je les appelle à voter en leur âme et conscience à partir du 23 juillet. Et celles et ceux qui, comme moi...
25 juillet
pour ceux qui sont en Tunisie, mais à partir du 23 et 24. Pour celles et ceux qui sont à l'étranger, 23, 24
exact,
et 25.
Exact.
Et celles et ceux qui pensent comme moi et qui ont envie de construire une nouvelle nation, un nouveau pays, et qu'on puisse enfin regarder vers l'avenir et construire notre propre modèle économique et construire
merci.
La Tunisie de demain, eh bien je les invite comme moi à voter oui.
Merci Raed Chaibi, président. Merci monsieur le président de la coopération franco-tunisienne, voilà, dans ce sens. Merci infiniment d'avoir
merci
été avec
vous.
Nous.
Merci à vous.
Et vous pouvez nous joindre au 01 53 48 3000, intervenir aussi, et puis nous livrer votre sentiment. Le face-à-face, c'est tout de suite après la pub. Tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous avec Mena Adouchenir et Mehdi Jaziri. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
19h20, 01 53 48 3000. Vous le savez, vous intervenez. Comment se déroulent vos vacances? Comment ça se passe? Comment comptez-vous, évidemment, vous organiser? Vous nous appelez. Le standard est ouvert. Yanis se prend un plaisir, justement, de vous accueillir. 01 53 48 3000. Tout de suite, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face, c'est avec Mehdi Adouchenir, ancienne élue de Rosny-sous-Bois, mais également aussi consultant en numérique. Comment ça va, mon cher Mehdi?
Très bien, dites-vous.
Micro allumé, ce sera mieux. Comment tout va bien?
Très bien.
Ah voilà, c'est mieux.
Toujours aussi bien.
Bon, face à vous, c'est un jeune journaliste, Mehdi Jaziri. Comment ça va?
Ça va. J'aime la canicule.
Ça me vraiment, c'est. J'aime ça bien. Vous va bien?
Ah, je suis le seul qui me plaint pas de la canicule.
C'est vrai.
J'aime trop.
Ah, aujourd'hui c'était dur. Hein.
On va bloquer Europe Écologie Les Verts.
C'était dur aujourd'hui. Hein. Moi j'ai morflé. Hein. J'ai morflé aujourd'hui les
amis. En fait, il faut juste boire de l'eau. Enfin, il faut préciser d'ailleurs besoin de boire de l'eau. Quoi.
Surtout
c'est
boire de l'eau, quoi qu'il arrive.
Au moins 1,5 litre par jour.
Oui, de toute façon, il faut boire. Alors aujourd'hui, vous savez, Emmanuel Macron, le chef de l'État français, a reçu en grande pompe le président des Émirats arabes pour discuter, MBZ, Mohamed Ben Zayed, justement pour discuter du carburant, de l'énergie, bref, une visite qui a donné lieu à plein d'accords, de signatures. Il est arrivé en tenue traditionnelle, MBZ, comme il le fait d'ailleurs à son habitude. Mais il a beaucoup apprécié d'ailleurs, il tenait absolument. C'est la première visite à l'étranger, hein, c'est en France. Que peut-on retenir? Et puis surtout, Quelle est cette nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron ? Ménade au Chénir. Alors, ces deux dirigeants
est-ce qu'elle est
sont vus, ils ont déjeuné, ils se sont entretenus, oui. Ils ont passé une soirée autour d'un dîner dans le grand, majestueux Grand Trianon à Versailles. Mais surtout des gros contrats.
J'étais assez étonné de lire ici et là que on découvrait un peu la relation entre les Émirats Arabes Unis et la France. C'est une relation qui en fait a plusieurs dizaines d'années. Hein, les vrais premiers événements de ce type-là, des Mitterrand, finalement, on avait eu droit aux visites du père de l'actuel chef de l'État. Donc c'est une coopération qui date qui est plus décennale. Et on a des accords qui vont bien au-delà. Parce que là, on parle de pétrole en ce moment, puisque c'est le sujet à la mode. Mais avant ça, il y a eu des accords sur le nucléaire, le nucléaire français, justement, là-bas. On a vendu des Rafales aussi à ces gens-là, qui ont honoré leur part du contrat, contrairement à d'autres qui devaient nous acheter des sous-marins.
Plusieurs signatures qui s'élèvent à 14 milliards. Hein.
Absolument. Oui. Et c'est pas fini, si j'ose dire. Ça fait déjà longtemps.
Mais quel est l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui ? C'était quoi ?
C'est
de préparer le carburant, peut-être ?
Pas que.
L'énergie.
Moi, je pense que c'est vraiment qu'une des très nombreux enjeux qu'on avait dans ces échanges-là. C'est, dans la région, un allié de poids, qui a fait pas mal de choses, notamment l'investissement, la lutte contre l'islam politique. La France a aussi une base militaire, une coopération militaire également avec ce pays-là. Et c'est un allié stratégique de la région. Et moi je n'étais absolument pas étonné qu'à un moment, voilà, puisque il a pris ses fonctions récemment, hein, puisqu'il a succédé malheureusement au décès de son frère.
Au défunt.
Son défunt frère. Je trouvais ça absolument normal qu'une visite de ce type-là ait lieu. Et dans ce type de visite, on a effectivement tout intérêt à renforcer davantage nos relations. Macron, d'ailleurs, lui avait même offert une carte du
Oui, d'un géographe du 1535, voilà. D'un géographe allemand.
La péninsule arabique.
Et la Légion d'honneur.
On est sur la relation diplomatique pure. Voilà. Donc, pour le coup, je suis un peu étonné de voir que certaines personnes découvrent qu'il y a une relation entre les Émirats arabes unis.
Il y a des liens historiques quand même.
Il y a des liens historiques, il y a des liens économiques. Même, hein. Et on a aussi même des liens culturels. Le Louvre à Abu Dhabi, pourquoi est-ce qu'il est à Abu Dhabi ? Il y a aussi ça n'est pas un hasard. Il y a des coopérations qu'il faut bien au-delà des seuls sujets purement économiques. Donc continuons d'entretenir des relations.
Sauf que je suis pour mon cher Ménade, la France, elle cherche à diversifier. Vous savez quoi ? Les sources d'approvisionnement.
Alors,
oui. Vous n'avez pas lâché le mot.
C'est tout à fait normal.
Mehdi Jaziri.
Moi, j'aimerais ajouter, oui, forcément, par rapport au pétrole, la France va chercher le pétrole là où il y en a. C'est normal.
Enfin, je veux dire, la pré-russe, surtout.
Oui, voilà. C'est quelque chose de prévisible. Après, bien évidemment, je pense qu'en géopolitique, il ne faut pas juste centrer sur un seul problème. Il faut vraiment décentrer et regarder en globalité la chose. Aujourd'hui, on voit que dans le monde, les deux pôles, si je puis dire, l'Occident et le côté un peu l'Est, entre guillemets, du monde, cherchent leurs différents alliés. C'est pour ça que je dis qu'on n'a jamais été aussi proche de la Troisième Guerre mondiale. Finalement, faut pas avoir peur des mots. Tout le monde cherche ses propres alliés, sur un plan économique, sur un plan militaire, sur un plan géopolitique. On cherche à stabiliser, entre guillemets, la région, le Moyen-Orient. Parce que c'est vrai que là, à une certaine période, c'était quand même très déstabilisé là-bas. Donc forcément, là, il y a eu...
Biden militaire à Abu Dhabi.
Voilà, mais moi, je pense que c'est aussi en lien avec Joe Biden qui va en Arabie Saoudite, qui essaie de tisser des liens. Emmanuel Macron fait la même chose. C'est normal. C'est tout à fait normal. Poutine, de son côté, fait la même chose aussi. Hein, rassurez-vous. Hein. Enfin, Poutine, il n'est pas là dans son fauteuil en train de dire on va tuer des Ukrainiens. Enfin, il est en train d'avancer aussi. Donc c'est juste l'évolution de la géopolitique. Même si pour le coup, pour revenir par rapport à ce que disait monsieur, les liens entre les Émirats Arabes Unis et la France ont toujours été plutôt bons. Enfin, il n'y a jamais eu vraiment de soucis. Il y a rien d'étonnant en fait finalement. Voilà.
Rien d'étonnant. Sauf que quand même, on retiendra quand même que MBZ a choisi la France. Pour quelle raison d'ailleurs elle a choisi la France ? Pour son première visite d'État. Hein. La France.
Ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, c'est un partenaire stratégique.
Parce que c'est pas historique. En quelque sorte aussi de remercier Emmanuel Macron puisqu'il est venu aux condoléances.
Certainement.
C'est aussi ça aussi. Hein,
et Emmanuel Macron n'est pas le dernier, effectivement, rendre hommage au chef d'État disparu. Et puis, encore une fois, c'est des relations qui... C'est pas une relation d'opportunité. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Un message de fond, c'est que c'est pas une démarche, une relation d'opportunité. C'est qu'on a intérêt, nous, à avoir des alliés stratégiques dans cette région, mais eux aussi ont intérêt à avoir, dans l'Union européenne, des pays qui comptent.
Moi, je pense que c'est intéressant que les premières recherches entre guillemets de pétrole ailleurs qu'en Russie ont été faites là-bas, parce que en vérité, c'est quelque chose d'assez facile pour Emmanuel Macron, parce que là-dessus, regardez, on est là, on dit que c'est pas quelque chose d'étonnant, que c'est plutôt des échanges de bons procédés, que c'est respectueux. Et en fait, je pense que la France va petit à petit chercher encore plus son pétrole ailleurs, et quelquefois dans des zones un peu plus, on va dire, brûlantes. Donc c'est bien de commencer avec des pays comme ça, parce que finalement, Emmanuel Macron se mouille pas trop, finalement. Il est dans sa zone de confort. Parce que c'est vrai que là, quand il va devoir aller voir d'autres pays, et qui s'imposent peut-être un peu plus compliqué, là il va galérer un peu plus. Donc je trouve que c'est intéressant, cette stratégie d'aller directement voir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, parce que finalement c'est facile, quoi. On se mouille pas trop, on est amis avec eux depuis longtemps, on a de bons
Et les deux personnalités s'apprécient beaucoup.
Voilà.
Il y a ça aussi.
Et puis se ressemblent un peu aussi sur quelques points.
Ouais,
je trouve.
Allez messieurs, nous allons entamer ce second sujet. Vous pouvez intervenir au 01 53 48 3000. On va parler de pouvoir d'achat. Des heures et des heures de débats qui n'en finissent pas, mais surtout des débats qui se transforment parfois en clash, houleux. Les députés en sont à peine à l'article 1. Vous vous rendez compte que les amis, ça peine quand même à avancer. Hein. On a même entendu bouffon rouge, arnaque, bref. Certains députés ont lâché ces quelques mots. Donc, ces premiers débats qualifiés d'houleux à l'Assemblée nationale, très honnêtement, est-ce que ça laisse entendre qu'on peut travailler ensemble au sein de ce Parlement, Ménades ou Chénir ? Et surtout, c'est un fameux accord pour servir les Français.
Ouais, certains doivent comprendre que les élections sont derrière nous, c'est terminé. Les élections, c'est un moment où on parle à la passion. Puis au moment où de gouverner, on gouverne avec
vraiment,
raison.
Vraiment, vous pensez ?
Non, c'est pas moi qui le dis. Je veux dire, c'est la pratique, je veux dire, depuis même l'Antiquité. Au moment des élections, c'est la passion qui règne. On le voit. Par contre, au moment de gouverner, il faut gouverner avec raison. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que certains, dans l'hémicycle,
oui,
ne sont pas encore sortis, on va dire, des invectives électorales et électoralistes qu'ils ont pu avoir. Et donc, on arrive à, effectivement, moi j'ai regardé comme vous les débats, et puis il faut lire aussi les questions écrites, et puis il faut regarder un peu. Voilà, on est sur, je pense, une bonne partie de l'hémicycle, et pas que la NUPES, hein, parce que c'est bien de les charger, mais il n'y a pas que, aussi côté FN, entre autres, qui
RN, ouais,
continue.
Bon, oui, RN, pareil, Marine Le Pen, elle tend la main, elle. Hein.
Ah oui, il y a la droite et l'extrême droite qui sont alliés.
Attends, elle dit je tends la main pour faire baisser le prix du carburant et du chauffage, augmenter les salaires réels, sauver EDF et notre souveraineté énergétique.
Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est devenu le bonbon magique qu'on essaie de se partager. Voilà, on sait, en fait, à une certaine époque, tout le monde était en train de dire oui. Enfin, on avait un débat sur quel était le sujet le plus important pour les Français. Certains ont dit que c'était l'insécurité, ce qui est complètement faux. C'est le pouvoir d'achat. Donc forcément, sur un sujet comme celui-ci, en plus, ça fait partie des premiers sujets qu'on...
Est-ce que ce Parlement, finalement, est-ce qu'il ne s'est pas un peu transformé en surenchère?
Mais c'est ça depuis la présidentielle.
On met quoi dans le terme pouvoir d'achat? Parce que, il y a une chose, certains demandent d'augmenter les salaires strictement. On augmente les salaires.
Le carburant? Mais il n'y a pas que les salaires, les prix.
C'est un exemple, c'est parmi les grosses revendications.
Il y a les grosses revendications.
On a vu des interventions fort éloquentes, Adrien Quatennens et autres, qui demandaient l'augmentation des salaires. Quand vous augmentez un salaire, quand vous êtes une entreprise, quand vous êtes un chef d'entreprise, grosse boîte comme petite, à un moment, cet argent, il faudra le trouver quelque part. Et à la fin, si je fais avance rapide, on va le chercher surtout dans la poche des clients. Mmh. Et les clients, c'est qui? Les clients, c'est nous aussi. Donc il y a un sujet, effectivement, de pouvoir d'achat, mais est-ce que c'est la baisse des prix ou la régulation de certains prix? Est-ce que c'est l'augmentation des salaires? Est-ce que c'est le contrôle plus fin? On en avait déjà parlé ici de la fluctuation de ces prix, parce que ça manquait un peu de transparence, notamment dans la grande distribution. Et là, personne ne sait dire. On dit juste pouvoir d'achat comme un slogan, et voilà. On balance ça à toutes les sauces en disant que c'est jamais la bonne solution, et c'est pour ça qu'on en est qu'à l'article 1. Donc voilà, bravo l'Assemblée nationale.
On est tombé dans des jeux de politiciens.
Non
mais oui, mais ça porte un nom. C'est des jeux de politiciens, en fait, finalement. Le pouvoir d'achat, c'est une belle marque. Voilà, c'est un bel emblème. On va défendre le pouvoir d'achat. Tout le monde veut le faire. Même le RN, même Marine Le Pen veut le faire. Donc je veux dire, au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce que chacun essaie de s'attirer un peu les grands discours, les belles paroles, mais il n'y a pas d'action derrière. Parce qu'il n'y a pas de réel plan, il n'y a pas de réels investissements, il n'y a rien de tout ça. Quand le gouvernement propose quelque chose, chacun essaie d'attaquer, ou alors du moins de dire, je vais aller le joindre, et je vais attaquer l'autre, et ceci, cela. En fait, voilà, c'est une cour de récréation, l'Assemblée nationale, en ce moment, si vous voulez. C'est pas du tout, c'est la vérité. Je veux dire, tout le monde se tire dessus, tout le monde se fait des blagues, et vas-y qu'on rigole, et ceci, stop. Au bout d'un moment, il y a des vrais problèmes. On est encore en crise sanitaire. Faut pas oublier ça aussi, que là, on va arriver à la rentrée. On sait pas ce qui va se passer. Certains prédisent une nouvelle vague. Voilà, ça aussi, faut le dire. Il y a la guerre qui continue. Il y a le pétrole qu'il va falloir chercher, parce que là, ça va encore, mais ça va s'empirer après. Enfin, ça faut le dire. Donc, comment est-ce qu'on va s'organiser? Comment est-ce qu'on s'organise? Eh ben, déjà, on organise un bon parlement. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Avec de bonnes idées. Avec de bonnes propositions. Il y a ni l'un ni l'autre. Voilà. Tout ce qu'il y a, c'est des clashs. Des embrouilles.
Ben, des clashs, des embrouilles, mais voilà. Peut-être qu'il y a lieu aussi de...
Non, mais c'était la même chose pendant la présidentielle. Elle a dit qu'est-ce qu'on croyait dans tous les cas. C'était le cas pendant la présidentielle. Voilà. C'était que des belles paroles, des belles embrouilles, de belles punchlines, mais rien derrière. Rien du tout.
Ménad Ouchenir.
En ce moment, c'est le pouvoir d'achat avec lesquels, effectivement, on a des députés qui vont se taper dessus. Mais on a eu des époques différentes. Hein. C'est un peu des produits, c'est un peu des modes. Aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. À une époque, c'était l'insécurité. Avant ça, on avait l'identité nationale. On a vu le mariage pour tous. À chaque fois, on prend un thème de société important où il y a des vrais enjeux derrière. Et puis, effectivement, on s'en sert pour se cogner dessus. Ça fait plus ou moins mal. On décrédibilise les autres, etc. Quand je vois que tous les amendements des oppositions, et du coup, je parle de toutes les oppositions, ont été refusés, moi, je me demande s'il n'y a pas un petit problème aussi là-dedans. C'est que les refus de principe, ça rend le pays ingouvernable, de ce point de vue-là. Et partant de là, à la fin, qu'est-ce qui trinque ? On les a eu au téléphone, ici, sur ce plateau, Adil, les gens qui n'arrivaient pas...
Ils ont défilé.
À joindre les deux bouts, à faire le plein. Je pensais à ce jeune homme-là qui avait dû arrêter de bosser parce que ça lui coûtait plus cher d'aller bosser en faisant le plein.
Vous parlez des auditeurs.
Que... effectivement d'aller simplement au travail ou que de se mettre au chômage. Donc pendant ce temps-là, les gens continuent de galérer et quelle image ça donne de la politique quand on les regarde? Quelle image? Alors je dis pas que la politique c'est que de l'image, mais c'est aussi de l'image. C'est des gens du peuple, élus par le peuple, pour le peuple.
Plus d'un millier d'amendements ont été déposés, les amis.
C'est une manière de faire de l'obstruction aussi. Là, c'est plutôt les oppositions qui, pardonnez-moi, déconnent à charger la barque des amendements qui fiche en l'air l'agenda parlementaire, et pendant ce temps-là, c'est l'été. Et puis, de l'autre côté, en circonscription, les forêts brûlent.
On va prendre les auditeurs au 01 53 48 3000, vous savez quoi ? On va juste marquer cette seconde pause pub. On se retrouve tout de suite après, chers amis, avec Ménad Ouchenir, Mehdi Jaziri, mais vous aussi. Tiens, je voudrais vous entendre. Partout en France. Vous entendre nous dire tout simplement le pouvoir d'achat, vous en pensez quoi ? C'est débat houleux ? Comment s'en sortir finalement ? Eh bien, le standard est ouvert. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
À 19h37 et le débat continue, vous le savez, y compris en dehors de l'antenne. 19h37, 38 maintenant précisément, avec Ménad Ouchenir, ancien élu d'ailleurs de Rosny-sous-Bois, consultant en numérique aujourd'hui. Mehdi Jaziri, jeune journaliste qui nous prépare un documentaire pour la rentrée notamment. On reviendra sur cette actualité à la rentrée. Karim de Tremblay au 01 53 48 3000. Je vais y arriver. Le standard est ouvert. Karim de Tremblay, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue, mon cher Karim.
Merci.
Vous trouvez que la vie est de plus en plus chère aujourd'hui ?
Oui, je pense que tout le monde. Hein. C'est difficile pour beaucoup de gens.
Vous savez ce qu'on était en train de dire, Karim ? On était en train de dire, justement, quand on va faire les courses désormais, ça a doublé pour certains produits. C'est un peu le cas aussi pour vous aussi ?
Oui, complètement. Hein. C'est vraiment ça. Moi, je suis un peu le, comment dire, la croissance, enfin l'inflation. Quand on nous parle de 4%, je crois que j'ai entendu dire un chiffre comme 4% par mois, enfin en moyenne. Moi, j'ai pas l'impression que c'est seulement 4%. Enfin bref.
Oui.
Je voulais juste revenir sur.
C'est lui qui nous faisait un cours.
Ouais, je voulais juste revenir sur une intervention là, que j'entends là, depuis tout à l'heure.
C'est qui ? Bon, dites-moi.
Les interlocuteurs là, qui sont à l'antenne, oui. Excusez-moi, je n'ai pas retenu les noms.
Oui, mais dites-moi, je vais vous guider. Dites-moi.
Donc moi, ça me choque un peu ce que vous dites, parce que quand vous parlez de l'Assemblée nationale en ce moment, vous critiquez le fait qu'il y ait une opposition qui s'oppose. C'est peut-être Mehdi Jaziri, le but.
Ça. Allez, clochette, il y a vraiment une clochette. Oui. Ouais.
Voilà. C'est peut-être le but de s'opposer, enfin quand on a été élu pour rencontrer la politique de Macron, enfin, moi je sais pas, hein, témoin d'un doute. Donc je comprends pas votre cette position, je la comprends pas. Enfin, vous m'expliquez parce que.
Bah, il va vous expliquer, lui, pas. Attendez, il va vous expliquer. Il est avec vous en direct. Vous allez lui parler.
Karim, bonsoir.
Bonsoir.
Ce que j'ai fait, c'est pas critiquer le fait qu'on s'oppose. C'est tout à fait normal de s'opposer en politique. C'est la base de la démocratie. Moi, ce que je dénonce, c'est le fait qu'on se permet d'utiliser des problèmes comme les vôtres, par exemple, comme les nôtres aussi, qui nous touchent tous, principalement les familles, pour faire voilà de la politique politicienne, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas de la politique en mode on veut aider les gens, on veut dire la vérité, on veut dire ce qui se passe sur le terrain. Si on fait de la politique pour se manger toutes les lumières. Pour montrer que l'autre est un idiot et en fait ne pas avancer finalement, si vous voulez, c'est juste des bagarres sans.
Mais alors excusez-moi.
Et je vais vous dire. Non mais je finis sur mon propos. Quand vous dites l'opposition, c'est bien une opposition, mais il faut savoir ce qu'elle fait concrètement derrière. Dites-moi sincèrement, il y a des oppositions depuis des années de gauche, hein, et ça existe. Hein,
donc là, comment on fait concrètement ?
Quelle êtes-vous maintenant, monsieur ?
Comment on fait concrètement excusez-moi. Comment on fait concrètement quand il y a un projet de loi du gouvernement ? Qui n'est pas suffisant pour le pouvoir d'achat, c'est clair, c'est pas suffisant, tout le monde le constate, sauf le pouvoir politique et politico-médiatique, dont beaucoup de journalistes sont son complice. Donc comment on fait pour se... Enfin, est-ce qu'on doit valider tout ce que ce gouvernement applique, c'est ça? Donc ils ont pas été élus pour ça, ils ont pas été élus pour valider ce programme.
Oui.
Je sais pas, à un moment, faut arrêter.
En revanche, quand on tombe dans des phrases inutiles, dans des bagarres inutiles, lorsqu'on se permet d'attaquer le gouvernement sur tout et n'importe quoi, je suis pas en train de défendre Macron, monsieur, hein, je vous le dis tout de suite, je suis loin même de
le
défendre.
C'est vraiment le problème, excusez-moi, c'est ce que vous laissez dégager,
en tout cas.
Bah non, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on se sert.
Non, mais la vérité, ça, c'est votre vérité.
C'est en fait, faut comprendre un truc, c'est que aujourd'hui, ce qui pourrit l'Assemblée nationale, c'est cette politique de carrière. C'est des gens qui font de la politique non pas pour aider les gens, mais pour avoir.
Non, mais ça, c'est ça.
Pendant longtemps, mais monsieur, c'est un problème.
Ça ne veut rien dire ce que vous dites. Excusez-moi, ça veut rien dire ce que vous dites.
Et il y en a à gauche.
Ça veut rien dire.
Que vous aimez la gauche. Oui, vous aimez la gauche, mais c'est un problème qui est à gauche aussi, qui est.
Pardon, vous connaissez pas. Je sais pas si j'aime la gauche ou j'aime la droite ou j'aime ce que vous voulez. Vous dites j'aime la gauche, non? Je suis désolé, vous pouvez pas dire ça. J'essaie juste de comprendre votre position. C'est bizarre, vous n'êtes pas le seul là, sur le plateau. C'est ça le problème. C'est que j'ai l'impression que la plupart des journalistes ont la même position en ce moment. Ils critiquent le fait que des élus qui ont été élus pour justement éviter le pire. Éviter le pire. Et quand le gouvernement propose une fausse des fausses aides quand on. Excusez-moi, je finis. Quand ils proposent juste 15 centimes le livre, mais c'est ridicule.
Oui.
Les gens peuvent pas s'en sortir. Comment vous faites pour vous opposer à ça? Mais dites-moi, il faut rester dans son coin, être poli, rien. C'est ça, enfin, vous voulez que les députés, qu'ils disent rien, en fin de compte.
Karim,
Merci.
C'est sûr que les vidéos de Jean-Luc Mélenchon sur TikTok sont vraiment très utiles. Hein, vraiment.
Excellente intervention, merci pour votre intervention, Karim, et pour votre fidélité. Merci à vous, Karim.
De tout.
Mélad.
Ce qui est.
Ouchenir, vous lui répondez aussi.
Oui, bien sûr. Bonsoir, Karim. Et alors, dans cette Assemblée nationale, ce qui la caractérise, on l'a vu, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue, comme ça pouvait être le cas au précédent quinquennat, la présente législature, où Macron pouvait faire finalement tout ce qu'il voulait, même si en fin de mandat, ça a un peu tangué. Aujourd'hui, cette Assemblée nationale, elle oblige, en principe, au dialogue et au consensus. On avait parlé aussi ici, c'est-à-dire que maintenant, on ne pourra plus bien gouverner ce pays si les formations politiques ne se parlent pas. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les premiers mois de la législature, c'est que personne ne veut lâcher un millimètre ses positions. On est dans la polarisation. Je bouge pas, tu bouges pas, on se fout sur la gueule, on n'avance pas. La solution, c'est facile à dire, mais c'est très compliqué à faire, surtout quand on est formaté depuis plusieurs quinquennats comme ça, c'est qu'effectivement, on arrive dans une culture à l'allemande, si j'ose dire, du consensus et du dialogue. Tu lâches un peu sur ça, moi je lâche un peu sur ça, ça fait la synthèse, et on avance. Ou allemand ou anglo-saxon, d'ailleurs, les exemples sont nombreux. Mais ça, pour l'instant, ça n'arrive pas.
Et il a eu raison.
Mais bien sûr, et la manière dont c'est fait, Adil,
vous faites comme Karim, 01 53 48 3000, vous intervenez, vous nous livrez votre sentiment. Oui, mais dis-je.
J'aimerais juste finir sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis pas du tout contre le fait qu'on s'oppose. C'est normal de s'opposer. Mais au bout d'un moment, bien évidemment, au-delà même de faire des consensus, il y a aussi une manière de faire de la politique. Au bout d'un moment, comme je le disais tout à l'heure, les vidéos, excusez-moi si je peux me permettre, à la con, de Jean-Luc Mélenchon sur TikTok, qui n'avance En rien, le débat politique, c'est pas ça qui va faire déjà intéresser les gens à la politique, parce que le résultat là, de législative,
il veut toucher les gens.
Mais ça les touche pas. Regardez les résultats, on les a eus. Ça a touché qui que ce soit. Mais moi, je vais vous dire, quand j'ai fait mon cahier d'oléances et que j'ai rencontré les jeunes sur le terrain, mais les seuls trucs qu'ils ont dit sur Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi? C'est la République, c'est moi. C'est tout ce qu'ils m'ont dit.
Pourtant les jeunes étaient derrière Jean-Luc
Mélenchon.
Bien sûr. Mélenchon.
Pourquoi? Parce qu'on se dit Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui va donner le plus d'argent. Voilà ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est le cas? Non, mais faut déjà. On est dans une politique complètement stérile. On est dans une politique de l'hyperbole. On est dans une politique de l'irrespect. Voilà dans quelle politique
vous êtes
on est.
Un peu réducteur.
Non, mais c'est l'effet. Mais sinon on serait tranquille. Regardez
dans quelle situation on est. Comme un bloc monolithique.
Mais non, mais aujourd'hui, je vous dis que j'ai été moi-même sur le terrain. J'ai parlé avec ces jeunes-là qui quand même parlaient de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait rien sur ces propositions, il y avait rien de concret sur tout cela. Mais c'est la première chose que j'ai vue. Mais on n'est pas dans un casting de télé-réalité. Mmh. On n'est pas sur Énergie 12. On est dans l'Assemblée nationale. Non, mais je veux dire, désolé d'employer des mots peut-être qui peuvent faire rire certains, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, quand on les regarde, ils font de beaux discours qui sont inutiles.
De Mehdi Jaziri, voilà. On n'est pas sur Énergie 12. Mabrouk de Paris, bonsoir Mabrouk, 0153 48 3000. Vous intervenez, vous le faites très bien, partout en France. Mabrouk, comment ça va mon cher Mabrouk?
Ça va, je rentre du travail.
Bon, vous rentrez du travail, ça va, c'est pas trop pénible?
Non, ça va, il faisait trop chaud, mais...
C'est chaud, hein? Ouais. Vous bossez à l'extérieur?
Oui, un peu partout.
Ça doit être dur, hein?
Entre bureau et terrain.
On vous écoute Mabrouk.
Alors, j'ai appelé au fait, parce que tout à l'heure j'ai entendu parler, il y avait un intervenant qui a parlé de défendre Macron ou pas Macron. La personne qui est sur place, là, qui est en train de donner son avis et tout,
oui.
On a tous...
C'est simple, c'est soit Ménade, soit Mehdi, soit l'un, soit l'autre.
C'est celui qui parlait de du sketch qui se passe entre les différents partis, tout ça.
Ça, c'est Mehdi Jaziri.
Les deux, on a parlé de ça.
C'est Mehdi, non,
c'est attends, comment c'est moi qui vais manger le truc encore?
Vous trinquez, c'est tout, c'est comme ça, c'est le principe.
Non, c'est la personne qui a dit que, actuellement, les partis, les élus, ils se renvoient là-bas, ils rigolent l'un sur l'autre et tout ça.
Ah, ça, c'est moi. C'est moi.
Je sais quand même.
Ça, c'est moi.
Je drive encore l'émission, donc je sais de quoi je parle. Mais allez, on vous écoute, Mabrouk, on vous écoute. Dites-nous tout.
Je voulais répondre à la personne qui a appelé juste avant moi. Si elle, la personne là qui vient de parler, elle défend une personne, automatiquement, tout c'est un choix à défendre. Oui. Donc il ne faut pas reprocher une personne de défendre son courant ou pas. Et personnellement, je suis de l'avis de la personne des Ménades, c'est ça, ou Mehdi?
Ménade, ou Mehdi. Ou Mehdi, celui Mehdi tout à l'heure.
Ouais. Je partage le même avis que lui parce que
on est arrivé
à un certain stade de.
Ouais.
Un niveau très bas, en fait. On se rigole l'un sur l'autre. On a l'impression qu'on est à l'école maternelle. On a l'impression qu'on est dans le carton. On dit, ouais, toi, tu sais pas faire ça. Moi, je sais faire ça. Donc, c'est un peu le niveau gamin, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est ce que véhiculent un peu nos députés. Ça laisse quand même une belle image, quand même, Ménade et Mehdi. Hein.
Moi, personnellement, mon avis, si on parle de démocratie, on ne parle pas trop de politique, en fait. Donc, les politiciens, ils devraient plutôt retravailler leur vision ou leur politique. Ils ne devraient pas appeler politique.
Merci pour votre intervention, Mabrouk. Et si vous bossez demain et dans les prochains jours, surtout prudence à vous et prenez soin de vous. Mehdi Jaziri.
J'aimerais juste aussi, pour en profiter, parce que ça, on le fait très rarement, saluer tous les politiques de locaux qui travaillent sur le terrain, du coup, qui rencontrent les gens et qui font de la politique de terrain. Ces gens-là font de la vraie politique. Les politiciens qui sont à Paris, dans leur petite assemblée nationale, en train de se crier dessus, font de la politique politicienne. Voilà, j'aimerais juste que les gens comprennent bien qu'il y a une scission entre les deux et que les vraies politiques, là aussi où il faut, là ça va arriver d'ailleurs prochainement, quand on va élire nos maires, quand on va élire nos présidents de région, bon, ça c'est déjà passé. Il faut se concentrer aussi là-dessus, c'est ultra important. Voilà.
Messieurs, oui, Ménade.
Non, je suis à moitié d'accord.
J'ai vu les auditeurs quand même, ça les fait réagir.
Je ne pense pas que la distinction se fasse entre les députés Paris et les députés de terrain. Je pense qu'il y a des élus de terrain, il y a des élus qui ne sont pas des élus de terrain, mais qui peuvent aussi faire un travail qui ne nécessite pas forcément du terrain. Mais moi, je pense qu'il s'agit de distinguer effectivement les élus qui travaillent vraiment pour la cause, pour les gens, qui ont vocation à servir, les gens qui les ont élus, et puis les élus qui travaillent dans l'intérêt d'un parti.
Donc vous leur donnez raison.
Vous êtes d'accord que la majorité c'est des gens de terrain. Mais vous êtes d'accord que la majorité c'est des gens de terrain, ceux qui sont là vraiment pour terrain.
Donc
cause,
le débat
etc.
Houleux.
Les deux existent et je rejoins Amélie là-dessus sur le fait qu'il faille saluer les élus qui œuvrent dans le, si j'ose dire,
et bah, bon sens. Vous devez...
Au
donc vous donnez raison
de la population.
Vous donnez raison à ceux qui clashent en plein hémicycle et que cela se transforme par un débat houleux. Donc finalement, vous leur donnez raison.
Ça dépend de ce que vous appelez clasher. Protester dans l'hémicycle, c'est fait pour ça l'hémicycle, c'est fait pour s'exprimer. Mais protester parce que l'autre a dit autre chose, même si sur le fond on est d'accord, mais comme c'est le gars de l'autre camp, on conteste par principe, ça...
C'est la politique politicienne.
Ouais. C'est la politique politicienne, comme le dit.
C'est du business.
Donc en l'occurrence, messieurs, il s'agit de distinguer les deux. Voilà. Saluer ceux qui
c'est un business très dangereux.
Parce que allez, c'est un petit mot très prégnant, avant de retrouver Bilal Nedman pour Time Sport. Je voudrais juste qu'on parle de Vladimir Poutine, de cette guerre en Ukraine, messieurs, mais surtout, que veut vraiment Vladimir Poutine? Il cherche quoi au juste? Il a une stratégie de la terre brûlée, mais en même temps, vous savez quoi? Cela va beaucoup plus loin, parce que Vladimir Poutine se voit en espèce de tsar qui marquerait l'histoire, justement. Ménard ou Chénir?
Ménade. Alors,
j'ai fait un mix des deux.
C'est beau Ménard, ça tout va bien.
Oui, non, ouais. Mais je pensais à Robert Ménard, le
joueur
de Béziers. Donc,
j'ai fait le tsar. J'ai droit à une clochette, tiens.
Alors, j'ai dans mes recherches en préparant l'émission, je suis tombé sur un excellent article de Courrier International. Il s'agit d'une interview de Natalia Zubarevitch, qui est une enseignante à l'université d'État de Moscou et qui est connue pour avoir une certaine liberté de ton, y compris à l'égard du régime. Et ce qu'on apprend, je ne vais pas vous refaire tout l'article, mais c'est que finalement, la structure de l'économie russe change par rapport au fait qu'ils vendent, ils exportent de l'énergie à d'autres personnes, à d'autres prix, etc. Mais pour faire très simple, la Russie s'est mise en position de pouvoir continuer à guerroyer longtemps. Donc on peut imaginer qu'effectivement, ils se lancent dans une guerre qui avait vocation à être une guerre éclair initialement, mais qui maintenant se restructure, se réorganise, un peu comme quand l'hiver arrive, hein, on sort les gros pulls et voilà, et ben, pour que la guerre dure. Et je pense qu'on va rentrer, on est même quasiment déjà rentré dans un conflit qui va durer, peu importe l'estimation, 3 ans, 5 ans, etc. Mais on est sur quelque chose qui va être relativement long et qui va impacter nos économies et l'économie mondiale de manière structurelle, plutôt que conjoncturel, comme on s'y attendait fin février, début mars. Il faut se dire que cette situation va durer. On a connu des guerres qui ont duré. Hein.
10 ans, 5 ans, 10 ans.
L'Afghanistan, 20 ans. Hein.
Absolument, l'Afghanistan, 20 ans. Vous avez raison.
On a grandi, etc. Donc,
absolument.
Et là, je pense, malheureusement, qu'on va rentrer.
Et même dans l'histoire de France, même dans l'époque.
Absolument. Mais mon point de vue est celui-là, et qu'on va rentrer dans un conflit qui va durer.
L'Irak.
Qui va nous impacter
l'Irak,
longtemps.
La guerre en Irak.
Et qu'effectivement, il va falloir aller chercher des sources alternatives de fourniture d'énergie, puisqu'il s'agit de dépendre de moins en moins de l'économie russe au regard des sanctions qui sont...
Mehdi Jazeri.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans une guerre, en fait, bon, il y a toujours des intérêts.
Ça, très court,
c'est, oui, c'est très court, promis. Il y a toujours des intérêts dans une guerre. Donc, plus les intérêts sont gros, plus la guerre dure longtemps. Voilà. Là, la vérité, c'est que l'Ukraine, c'est un point stratégique, quand même. Enfin, je veux dire, ça sépare les deux mondes, si je puis dire. Donc, forcément que cette guerre va durer, parce que les intérêts sont énormes là-dessus. Enfin, je veux dire, l'Ukraine, en termes d'énergie, c'est hyper important, en termes de blé, etc. Voilà, on l'a compris, on le ressent aujourd'hui dans le portefeuille. Donc, bon. Donc, Poutine, si vous voulez, là, il est en train de... C'est ce qu'on avait dit au début de l'émission, de retravailler, entre guillemets, ses alliés, l'Occident aussi.
Ouais.
Donc, en fait, si vous voulez, là, on va avoir un nouveau rayonnement géopolitique peut-être de la Russie, de l'Occident aussi. En fait, on a le monde qui se restructure, l'économie mondiale qui se restructure aussi. Et voilà, Poutine essaye de peut-être de reprendre le dessus. Peut-être que moi après je le vois comme ça. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je me dis peut-être que après la chute de l'URSS, on va dire un peu l'échec des Russes. Peut-être que là il y a peut-être une nouvelle partie qui s'est lancée en fait, dans un nouveau monde qui s'est lancé. Donc c'est peut-être ça que je me dis plutôt.
Eh bien, nous resterons sur ces mots. Merci à vous. Merci Ménade ou Chénir.
Merci.
Bel été à vous.
À vous aussi.
Est-ce qu'on vous retrouve à la rentrée?
J'espère bien.
Avec autant de plaisir. Mehdi Jaziri, bel été aussi.
Bah merci, vous aussi.
On vous retrouve aussi à la rentrée?
Bah ça dépend de vous. Au bout d'un moment.
Je vais prendre mon carnet.
Je suis là.
Je vais prendre le carnet et parmi tous les débatteurs et influenceurs, on va faire le tri. On va regarder ça. Vous avez raison.
On s'enverra des photos sur WhatsApp.
Absolument. On est ensemble encore demain, jeudi, vendredi. Bilal Nedman, eh bien vous avez rendez-vous avec lui de 20h à 21h avec Time Sport. Quant à moi, eh bien je vous retrouve demain. Merci à la réalisation, c'était Yanis. Merci aussi à vous, auditeurs. au 0153483000. Si vous êtes en vacances, prenez soin de vous, surtout. Faites prudence à la chaleur, à cette canicule, dans le sud notamment. Et puis, à demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
Ciao. Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.